Et c'est un verset exceptionnel, qui récapitule dans le même verset cinq fois l'expression Bnei Israël. Alors Rashi, que nous allons lire tout de suite, va sembler jouer avec nous. Et il va nous poser une question naïve. À quoi ça fait penser cinq? Aux cinq livres de la Torah. Vous voyez? Un peu comme on dit dans la Haggadat Pessah, Chamisha Miyodea, Miyodea, Chamisha Chomshe Torah. Donc, ça a l'air un peu enfantin apparemment. Alors nous allons lire le Rashi un peu plus attentivement. Et vous allez vous-même comprendre tout de suite quelle est la préoccupation de Rashi dans son commentaire. Et il dit ceci. Où suis-je? Voilà. Hamisha pe'amim ne'emar bnei Israël b'mikra ze. Cinq fois l'expression bnei Israël est employée dans ce verset. Le'odia hibbatam. C'est pour nous faire connaître l'amour qu'Israël a pour... l'amour que Dieu a pour les bnei Israël. Shinichpelu askaroteen b'mikra echad. Car la mention de leur nom a été répétée et répétée dans le même verset. Keminyan Chamisha Chomshe Torah. Selon le nombre des cinq livres de la Torah. C'est clair? Bon. Et Rashi ajoute, Vekar Raïti de Bereshit Rabba. Et ça, c'est trouvé dans le Bereshit Rabba. Je pense qu'on peut commencer par la fin, que Rashi veut nous dire, fais attention, je ne fais pas une analogie enfantine. Okay? Il y a un problème avec cinq niveaux, alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble aux cinq livres de la Torah. C'est un enseignement du Bereshit Rabba. Ça veut dire, ne quitte pas cet enseignement sans avoir compris qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est clair jusque-là. Alors, la structure de ce commentaire apparaît de façon immédiate. C'est que si nous comprenons la signification des cinq fois où l'expression « Bnei Israël » a été employée dans le verset, nous comprenons le sujet de chacun des livres de la Torah. C'est clair? Bon. Alors, je vous rappelle brièvement les cinq moments. « Ve'etena » Et Alvin, Netunim, Hem, Aaron, Ulbanav, Mitoch, Bene Israël. Premièrement, du dedans des enfants d'Israël. Or, c'est formellement le sujet du livre de la Genèse, le premier livre de cinq livres de la Torah, de Bereshit, où on nous raconte l'histoire d'un Israël sortant Mitoch, Bene Adam. Quel est l'objet du récit historique de tout le livre de la Genèse? De nous montrer comment la Inyana Eloki émerge du dedans de l'humanité tout entière, se réalisant en Israël, exactement à la manière dont la tribu de Lévi procède des enfants d'Israël. Et de même que le choix de la tribu de Lévi, son élection, ne disqualifie pas les enfants d'Israël, vous avez entendu Rachid, j'y reviendrai, de même l'élection d'Israël ne disqualifie pas l'humanité. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et là, c'est un des malentendus de fond que nous avons avec ces deux rivalités des traditions de la chrétienté et de l'islam qui posent le problème comme si le judaïsme prétendrait que l'élection d'Israël a envoyé l'humanité dans l'enfer. Ce serait comme si l'élection de la tribu de Lévi avait annulé Israël, les autres tribus. Or, ce n'est pas le cas, nous dit Rashi. Est-ce que vous avez remarqué qu'il semble y avoir contradiction formellement entre le commentaire de Rashi et le verset? Le verset lui parle de l'élection des Lévites, okay? Et donc implication possible, disqualification des autres tribus. Rashi nous dit tu te trompes, c'est tout le contraire. On a répété dans ce verset de l'élection des Lévites cinq fois Bnei Israël pour te dire la hibba des Bnei Israël, l'importance qu'ils ont aux yeux de Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire la préoccupation de Rashi ici n'est pas du tout mineure. Okay? Il veut nous éviter une erreur de lecture. On pourrait croire, d'après le contexte, que ce verset va disqualifier les autres tribus. Rashi ne nous dit pas du tout, c'est tout le contraire. On va nous dire l'importance de Bnei Israël, que deux sortent les Lévites. L'importance de Bnei Adam, que deux sortent les Lévites. Et vous voyez dans quelle atmosphère nous nous trouvons. Est-ce que c'est clair? Par exemple, dans le Sefer Vaikra, où il y a tout l'ordre des korbanot, de la liturgie des sacrifices, eh bien, le premier verset, c'est d'ailleurs le premier verset qu'on fait apprendre aux enfants de Talmud Torah, ça dépend du niveau de précocité, 2 ans et demi, 3 ans, Adam, qui a créé Mikhaël, Korban, Lachem. Lorsqu'un homme parmi vous, Adam, présente un sacrifice. Mais il n'y a plus de Adam, il n'y a que Israël. Mais non, c'est ça Israël, c'est Adam. Est-ce que vous comprenez le problème? Alors, ça c'est le sujet du premier livre, « Mitoch Bene Israël ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Lévi sort du dedans profond d'Israël, pas à l'extérieur d'Israël. Il est le Toch d'Israël. De la même manière, Israël est le Toch des Bnei Adam. Et ça sort « Mitoch ». C'est suffisamment clair. Je voudrais être... Non, elle est pas seulement héréditaire, puisqu'on peut se convertir à cette identité. On peut redevenir. Bon, ça c'est les niveaux. Un Israël peut pas être Lévi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'un goy peut pas être Lévi. Un Israël peut pas être Lévi. De la même manière qu'un Lévi peut pas être Cohen. Mais, vous voyez, ça c'est les niveaux. Mais dès qu'on est au niveau le plus inférieur, on est dedans. Et chacun a sa place. Mais rappelez-vous ce que nous avons déjà étudié dans les deux cours précédents. C'est pas n'importe quel neshama qui vient dans n'importe quel corps. Et chacun est à sa place. C'est pas parce qu'il y a des niveaux que, à part le degré supérieur, tout est disqualifié. On nous dit l'inverse. S'il n'y avait pas de degré inférieur, il n'y aurait pas de degré supérieur. Okay. Il y a une discussion très jolie dans la Gemara. Qu'est-ce qui est plus important, la tête ou les pieds? Il n'y a pas de réponse. Parce que quand la tête va aller quelque part, si elle n'a pas de pied, elle n'y va pas. C'est tout le problème de la Aliyah, par exemple. Je ne profite pas que Michel ne soit pas là. Et on ne va pas en Israël avec sa tête, on y va avec ses pieds. Et la tête, je suis... Bon. Alors... Et c'est pas pour rien qu'elle les donne.
Les donne.
Vous savez, dans la Gemara, on dit un chameau, on cherche pas à savoir s'il est cachère. Un agneau, on cherche à savoir s'il est cachère à la loupe. Et qu'est-ce qu'on trouve jusqu'à ce que la transfiguration soit achevée? Est-ce que c'est clair? Ce que je voulais dire tout de suite, c'est que vous anticipez un peu sur le paragraphe suivant de Judas Lévi, où c'est ce problème-là qui va poser, nous allons le voir ce matin encore. Et il y a une explication du Midrash sur le thème de Metzora, le lépreux. C'est relié à une autre explication du Midrash que la lèpre punit la calomnie. Motzi Shemra, celui qui dit du mal de quelqu'un d'autre, finalement serait atteint, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous, il y a un nom très précis mais j'ai oublié, une espèce de réaction psychosomatique qui se traduit par une maladie de la peau, à la limite la lèpre. Bon. Et alors, comment s'appelle ça qu'on a là des fois? Bon, c'était un exemple pour dire un peu ce que le Midrash veut. Comme nous sommes devenus insensibles, durs à cuire, si j'ose dire, on a du cuir, on n'a plus de peau, alors ne réagit plus de façon aussi sensible qu'elle. Alors, donc, le Midrash continue dans son explication en disant ceci. Quand quelqu'un a des plaies à l'extérieur, il faut d'abord le féliciter. Parce que le mal qu'il avait en lui, eh bien, il le fait sortir. Alors, quand ça sort. Vous comprenez? Mais c'est pour que ça sorte. C'est clair. Mais Judas Lévi va poser cette question, c'est pas seulement pour les enfants de Lévi, de l'origine de l'histoire de la famille Jacob. Alors, je vais très rapidement pour les... quatre autres livres, puisque c'est pas notre sujet, mais j'ai cité le sujet. La Ravod et Ravodat Bene Israël, Beol Moed, ça c'est le sujet du livre de Shemot, de l'Exode, et qui nous donne le sujet, le thème du livre de l'Exode. Et qu'on pourrait formuler de la manière suivante, quel était l'objectif de la sortie d'Égypte? Est-ce que l'objectif de la sortie d'Égypte était d'aller au Sinaï, recevoir la Torah, et ensuite aller la pratiquer n'importe où? Ou bien est-ce que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était de construire le Oel Moed, c'est-à-dire le Beth Amidash, et qui ne se construit qu'à Jérusalem? Et là, la réponse est très claire. La Ravot et Ravodat, Béni Israël, Doel Moed. Vous avez compris l'importance du problème. C'est un sujet pour lui-même. Troisièmement, ou le Chaper al Béni Israël, c'est Vaïkra, le Corbanot. Véloïe et Béni Israël, Nege, c'est Benigbar. Il y a tout le récit de la mise à l'épreuve de l'identité du peuple et des Negifot qu'il a fait, les catastrophes, les 10 catastrophes dans la marche au désert. Et alors, la fin du verset, je m'en excuse, mais. Je ne peux pas la traduire autrement que ce qu'elle dit. Begeshet, Bene Israël et la Kodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approcheront de la sainteté, Et c'est l'entrée en Eretz Israël, le cinquième livre de Devarim. C'est clair. Vous voyez donc tout le programme. Alors, je referme la parenthèse. Hein? Le quatrième, c'est Velo, Yé, Vigné, Israël, Negev. C'est le sujet du livre de Bemidbar qui nous raconte toutes les tribulations dans le désert. Oui, nous verrons donc à travers ce verset, surtout le commentaire de Rashi qui nous l'a indiqué, pour le premier, en tout cas, notre problème, Mitor Bene Israël, le fait que les Lévites sont sortis du dedans des enfants d'Israël, c'est un sujet de félicitation pour les enfants d'Israël et non pas une disqualification. Et pas seulement pour le reste de l'humanité, pour tous ceux qu'il a créés. C'est-à-dire, nous avons toujours des difficultés à nous rattacher au principe du monothéisme absolu, qu'il s'agit du Dieu unique, créateur de tous les univers et de tout ce qu'il y a dedans, les araignées y compris. Alors ça, ce sont les niveaux mystérieux du monothéisme. Mais, vous avez compris ce que je veux dire. C'est à l'intérieur de cette notion-là qu'il faut comprendre ça. Et ne pas se ramener à une espèce de monothéisme qui serait une monolatrie tribale, qu'on adorait la divinité qui ne s'occupe que des juifs. Très souvent, le monothéisme juif apparaît à la lecture de certains textes homilétiques, je ne sais pas comment on dit, qu'il s'agirait de ça, d'une monolatrie d'un dieu tribal. Alors qu'il s'agit de l'idée du principe de la souveraineté unique de tout existant, les araignées y compris. Que voulez-vous dire ? Eh bien, c'est un autre sujet. Non, c'est pas extérieur à notre sujet, mais je veux dire, il me faudrait une parenthèse au moins une demi-heure. Je peux vous donner une référence qui indique, donne une indication de réponse à votre question. C'est une des premières Mishnayot du chapitre 5 des Pirkei Avot, qu'il y a eu l'effort de 20 générations depuis le premier homme jusqu'à Abraham, le temps de la Torah commençant à Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham vienne et récapitule le salaire, littéralement, sera le salaire du mérite des efforts de ces 20 générations qui ont mené à cette possibilité d'émergence de ce niveau Torah. Ça veut dire que si Abraham n'avait pas été Abraham, toutes ces 20 générations auraient été disqualifiées. Ça veut dire que ça aurait mené à un déluge, ça aurait mené à une. On aurait tout effacé. Okay? Mais le fait qu'Abraham ait pu descendre de ces 20 générations, a posteriori, ça l'est, comment on dit en français ? Ça l'est ? Ça l'est valide, oui. Vous savez, c'est le grand thème du jugement dernier, que c'est le dernier des jugements. Il faut attendre ce qui se passe à la fin pour savoir ce qu'il y avait eu au commencement. Et alors c'est le dernier qui a entre ses mains, si j'ose dire, le sort de tout ce qui l'a précédé. Abraham avait entre ses mains le sort des 20 générations qui l'ont précédé. On arrive in extremis au moment du rendez-vous de la mise à l'épreuve. Est-ce que cette humanité que j'ai créée valait la peine d'être créée ? Et la Mishnah que je vous cite nous dit, c'est pour nous apprendre la patience du Créateur, qu'elle est infinie. Il attend jusqu'à la dernière mise à l'épreuve, et puis Abraham apparaît. Alors depuis Adam Arishon s'est sauvé. Et c'est pourquoi notre récit historique ne commence pas à Abraham, il commence au premier homme, à Adam Arishon. Et là aussi, il y a une clause particulière, c'est que la tradition juive ne fait pas commencer l'histoire à elle-même, elle fait commencer l'histoire au commencement. Okay? Et notre calendrier, c'est Adam Arishon, c'est pas à partir de Moïse, c'est pas à partir d'Abraham, c'est pas à partir de la fondation d'une théologie, c'est à partir de l'histoire du premier homme. Et on a raconté tout ce qui s'est passé depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham, parce qu'Abraham était là. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je dis ? Et juste raconter une fois, je pense, je ne sais pas si c'est à vous, cette histoire un peu folklorique qu'il y a dans ce que nous appelons la Yiddishkeit, je ne sais pas quoi, le folklore juif traditionnel, imaginez dans un petit ghetto, à la fenêtre, Sarah qui interpelle Rebecca et qui lui dit « Rebecca, fais attention, il y a ton kaddish qui s'est fichu par terre. » C'était son gosse, okay. On l'appelait le kaddish, parce que ça veut dire « c'est lui qui va dire kaddish ». C'est lui qui va dire si la mère était juive. Ce n'est pas une question d'état civil, c'est une question de... Vous comprenez le problème ? C'est très joli. Et vous voyez, ce qui était la vie juive immédiate, ça devient des histoires jolies. Ça, c'est des histoires jolies. Quand c'est des histoires jolies, que c'est plus vécu comme ça, c'est le signe que la communauté est en train de dire kaddish. Et là... Je veux dire, vous voyez pourquoi le jugement dernier ne peut être que le dernier des jugements. Alors, toutes les générations qui nous ont précédés ont les yeux fixés sur nous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Imaginez, si on prend ça au sérieux, les cauchemars qu'on peut avoir. Bien. La responsabilité dans mes actes de tout ce qui m'a précédé. Alors, en général, on n'y pense pas parce qu'on peut se livre, mais de temps en temps, je crois que c'est bien d'y penser. Imaginez toutes ces générations qui attendaient que les pieds mènent la tête quelque part. Qu'est-ce que vous voulez dire? Exactement. Attendez, jusqu'à votre dernière phrase, j'étais... Mais alors, expliquez-vous, parce que j'ai sûrement pas bien compris. Le calendrier chrétien, quand même, commence à l'an zéro de la fondation du christianisme.
D'accord, mais avant, on compte les années à rebours.
Ah, moins. Oui, ça c'est joli. Hein. C'est joli. Vous savez, non, c'est vrai, il y a quelque chose d'important dans ce que vous dites. C'est une fois une discussion que j'ai eue avec M. Lévinas. Je veux dire pourquoi, parce que M. Lévinas, c'est un des enseignants de la communauté juive et qui, escalité en tant que tel, fait partie de l'amitié judéo-chrétienne, alors que personnellement, j'ai toujours refusé d'en faire partie. Ça ne signifie pas que je n'ai pas des amis dans l'amitié judéo-chrétienne et que lorsqu'ils nous demandent de parler chez eux, je parle aussi. Je vais vous dire pourquoi très rapidement, d'ailleurs, parce qu'il y a une clause dans la charte des amitiés judéo-chrétiennes qu'il ne faut pas chercher à se convertir l'un l'autre. Alors j'ai dit au père Riquet de l'origine, quand il y aura une déclaration de l'Église ou des Églises de mise en question de la conversion des Juifs au christianisme, je signerai cette charte. Mais tant que les chrétiens convertissent des Juifs, je veux rester libre de mes actes. Vous comprenez à peu près le problème. Je ne crois pas que nous soyons déjà là. J'ai posé la question souvent à des dignitaires de l'Église. L'Église ne renoncera jamais à convertir les Juifs au christianisme parce que le salut du monde en dépend. Alors oui, nous en sommes. Alors M. Lévinas me disait, mais vous comprenez, les chrétiens parlent de Adam alors que les autres pas. Okay. Alors je ne sais pas, dans la tradition de l'islam comme telle, il faudrait donc réfléchir à ce point, les musulmans parlent de Adam. Ils parlent de tout ce qui a précédé. Okay. Et je pense que peut-être dans leurs écoles, on aurait aussi tendance à compter à rebours à partir de l'Égypte. C'est possible aussi. Là, j'aurais peut-être un peu tendance à privilégier l'islam, en ce sens qu'il emploie une langue qui, comme l'hébreu, ne met pas homme au pluriel. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour dire les hommes, en hébreu comme en arabe, on dit les bnei Adam, les fils d'une identité unique qui s'appelle Adam. Alors que dans les autres langues, on met le mot homme au pluriel. Vous voyez le problème que cela pose, hein? Enfin, je laisse un peu ça en suspens, si vous voulez. Il faudrait sérieusement interroger les textes dans la tradition chrétienne et musulmane pour savoir si fondamentalement l'an zéro de l'ère chrétienne n'est pas considéré comme un point de départ absolu. Il faudrait essayer de voir. Effectivement, là, il y a quelque chose d'important. Bien. Il y avait, je crois, une autre question. Quelqu'un voulait poser une autre question? Non. Oui. Je me souviens que M. Lévinas disait sur tout cela par rapport à toutes les autres traditions. Je ne sais pas s'il avait tendance en disant, mais il parle de Adam, d'intégrer aussi l'islam, peut-être. Mais par exemple, il disait, vous allez en Inde, vous allez en Chine, vous allez au Japon, Adam qui sait. Au moins, avec les chrétiens, nous avons quelque chose de commun. J'ai cité Lévinas. Alors on revient on revient donc au sujet. Peut-être en vous donnant une analogie. Et c'est l'expression que nous rencontrons souvent, Yotze Minaklal. Yotze Minaklal, ça désigne l'être exceptionnel, l'être d'exception. Mais pas dans le sens que l'exception qui est en dehors de la règle, mais le cas particulier où la règle s'affirme vraiment. C'est tout le contraire. Et pourquoi? Parce qu'au niveau de l'identité, c'est yotze minaklal kulo. C'est pas un exemplaire possible d'un cas particulier de la règle. C'est la règle tout entière qui est la tout entière dans ce cas particulier. Si vous voulez, par rapport à la sphère, c'est le centre. Elle est yotze minaklal, elle est toute la sphère. C'est mitor, c'est la même chose. Yotze minaklal. C'est pas que c'est en dehors du klal, mais ça procède du profond du klal. Et donc ça sauve le klal au lieu de le disqualifier. Vous voyez comment nous avons une pensée inversée en changeant de registre. Et c'est le problème du Bechor, du premier-né, et c'est le problème du Kohen, c'est le même problème. C'est le problème ici de la tribu de Lévi par rapport aux autres tribus, c'est le problème d'Israël par rapport au reste de l'humanité, au reste de l'humanité par rapport à tous les êtres vivants, les araignées y compris, et au reste des êtres vivants par rapport à tout ce qui existe et qui a été créé par le Créateur unique. Tant qu'on ne se hisse pas à ce niveau du monothéisme, on ne comprend pas de quoi il est parlé. Donc c'était pour revenir un peu sur la question de tout à l'heure. Et là, on entre dans une dimension qu'on pourrait appeler mystique, entre guillemets, mais certainement, arriver à comprendre, j'emploie encore un mot chrétien parce que français, la communion réelle de tout l'univers, pendant que dans une synagogue, on dit la Kedusha. C'est en tant que délégué de l'univers entier, les crabes y compris, je ne sais pas comment vous dire ça, et aussi les autres. Bon, voilà. Alors là, nous pouvons continuer notre texte. Oulam, cependant, Bnei Yaakov, Hayu Kulam Segula. À ce moment-là, il n'y a plus sélection d'identité à partir d'Abraham. C'est clair, on enchaîne. Tous les enfants de Jacob sont tous Segula. Si j'ose dire en français, ils avaient tous Segula. Kulam Yachad, tous ensemble, Réouim, Ve'ayinana Eloki, sont aptes, convenables, matimim, au Ayinana Eloki, Ve'lachen Ayalahem Amakomahu. Et c'est pourquoi c'est aux enfants de Jacob que cet endroit, la terre d'Israël, la terre de Canaan, qui devient la terre d'Israël, est destinée. Est-ce que c'est clair? Vous voyez le lien des deux sujets. Dès le début, nous voyons que les promesses à Abraham sont triples, mais j'en isole deux. Et je dirais la troisième en passant. Tu auras une descendance. Qu'est-ce que ça veut dire une descendance? Ma descendance, Dieu Yanaloti, c'est de toi qu'elle procédera. Et c'est à ta descendance que je donnerai cette terre. Et ça va toujours ensemble. Avec tous les contextes de la promesse, les deux sont à la fois. Et il est indiqué de plus en plus explicitement et que c'est cette descendance-là qui recevra la Torah. C'est la troisième promesse. C'est toujours très, très, très lié. Il n'y a pas d'exception dans les textes. Chaque fois que Dieu s'adresse à un des patriarches pour lui confirmer que la descendance dont il s'agit, c'est de lui qu'elle procédera, en même temps, il y a le rappel. Et à ta descendance, je donnerai cette terre. Vous avez compris ce lien? Je vous ouvre ici une petite parenthèse de l'enseignement du Maharal, qui nous montre corollairement, nous l'avons étudié à un des séminaires du Maharal, pourquoi l'exil annoncé à Abraham ne va pas commencer au temps d'Abraham, l'exil d'Égypte, mais il ne va commencer qu'au temps de Jacob. Parce qu'il y a là un autre principe qui apparaît qui est très important. Seule la descendance d'Abraham, qui a accepté l'éventualité de la condition d'exil, a droit à la promesse de la terre. Ça a l'air d'être paradoxal. Celles qui savent ce que c'est que la galoute auront la Géoula. Okay. Alors le Maharal explique de la manière suivante. Si l'exil avait commencé, l'éventualité de l'exil avec toutes ses péripéties, ça pouvait être un exil dans l'honneur, diaspora. Okay. Mais ça a été l'exil dans la souffrance, galoute. Okay. Et puis il y a les hauts et les bas, c'est complexe comme histoire. C'est un sujet qu'on étudie surtout dans le modèle de Jacob chez Laban, Joseph en Égypte, les Hébreux en Égypte, c'est le modèle de tout exil. Et si l'exil avait commencé avec Abraham, Ishmaël aurait été compris dans l'exil et donc dans la promesse de la terre, Dieu préserve. Okay. Alors, ça ne pouvait pas commencer avec Abraham. Si ça avait commencé à Isaac, Ésaü aurait été compris dans la promesse de la terre et dans l'évangile de l'exil, qu'à Dieu ne plaise. Et alors, ça devait commencer qu'avec Jacob. Vous voyez quel est le... Et on pourrait faire l'analyse suivante. La descendance d'Abraham par Ishmaël a voyagé partout, mais jamais en exil, toujours en conquérant la guerre sainte. Et même quand ils ont été colonisés provisoirement, c'était en tant que conquérants qu'ils ont été colonisés. Je me rappelle de mon Algérie natale. C'est vrai, mais clair, tout le monde sait que les Arabes ne sont chez eux qu'en Arabie, c'est-à-dire partout d'après eux. Et de la même manière pour la descendance de Ésaü. Ésaü a voyagé partout, hein, mais toujours en conquérant, jamais en exilé. La condition d'exil, de ne pas être chez soi, ailleurs, ça, il n'y a que les Juifs qui l'ont connu. Alors c'est à travers cela qu'ils sont concernés par la promesse de la gueule. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? C'est un peu rapide, mais il y a un sujet pour lui-même. Pardon ? Oui, eh bien il est possible, et rappelez-vous ce que je vous disais hier à propos de Strasbourg, il est possible que, ayant effectivement connu cette expérience, on va pouvoir un jour enfin se parler. Toujours possible. Allez expliquer ça autrement qu'en hébreu, hein, comme vous avez dit. Et je pense qu'il y a là une manifestation assez profonde. Je suis en train de lire la série, je lis les titres, parce que j'ai pas le temps, d'Éric Rouleau sur la diaspora palestinienne et l'an prochain à Jérusalem. Vous voyez, toute cette effectuation de l'expérience juive par les Palestiniens, ça présage des choses bien, si j'ose dire. Bon, on anticipe. C'est de l'anticipe, pas sinon. Mais je pense que ça va dans ce sens-là. Peut-être que je vous rémunérer une petite parenthèse qu'on a étudiée à propos d'une fois de ce problème et de la Gada de Pessah, à propos des quatre enfants de la Gada de Pessah. Un des commentaires de Chassidim m'a posé la question. Son commentaire s'appelle Akedat Yitzhak. C'était son nom. Il s'appelle Yitzhak, Rabbi Yitzhak, Ben Rabbi Elimelech, je crois. Il a posé la question, dans quelle famille il y a quatre enfants comme ça? Un Hacham, un Rachar, un Tam et un Shemoyader Lichol. Je me souviens de l'avoir cité plusieurs fois. Lui, c'est la famille d'Abraham. Le Hacham, c'est Isaac. Il y a un sacrifice à faire, sacrifice de Pessah, je suis prêt. Bien. Le Rachar, c'est Esaü. Il dit, Ma Avoda Azot Lachet. Qu'est-ce que c'est que ces histoires à vous? Vous suivez? Et le Tam, c'est Yaakov. Ishtam, le Sevoali. Et le Shem, le Yadir Lichol, c'est Ishmael. Parce qu'on a remarqué que le seul personnage de la Torah qui ne parle pas jamais, c'est Ishmael. Et vous savez que même maintenant, il ne veut pas nous parler. Il n'y a rien changé. Alors, la Mishnah qui concerne Ishmael, celui qui ne s'est pas posé la question, dit, tu peux croire que dès Rosh Chodesh, tu vas lui en parler, dès que les premiers signes du renouvellement du temps arrivent, le mois lunaire, le Chidouche, non, il ne comprendra pas. Le verset a dit, en ce jour-là, peut-être un peu la veille avant, mais bien au diom, tant qu'il fait encore jour avant qu'on arrive. Non, il y a écrit, Bechaach, Matzah, Maror, Munachim, Nefanecha. À l'heure où la Matzah et le Maror seront devant toi, tu peux lui dire, voilà, tu vois ça, c'est ça. Là, il comprendra. Et qu'est-ce que c'est Matzah Maror ? Le signe de l'exil. Vous comprenez le problème ? C'est-à-dire que quand il aura cette expérience, on pourra se parler. Et comment c'est introduit ? Veshé no yodé arishol, at petachlo. Au féminin, at petachlo. Il nous fallait Golda Meir. Mais vous savez que, c'est une coïncidence, c'est la première... d'ailleurs, c'est un grand homme, cette femme... Là, c'est la première chef de, enfin pas chef de gouvernement, homme politique, qui a parlé avec le roi Abdallah. Vous vous rappelez ? Il s'est même fait assassiner pour ça. Comment tu parles à une femme ? Mais. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une expérience de la fin des temps qui sera peut-être partagée par Ishmael. Alors on pourra commencer à se parler. Pour le moment, c'est une parole qui ne passe pas. Bien. Qu'est-ce que vous vouliez demander, monsieur ?
Il me semble que j'ai jamais vécu des
430 ans de vie, je crois,
vous commencez à partir
de l'Israël. Non. En fait, le verset dit à Abraham, annonce pendant 400 ans. Mais nous avons deux autres chiffres. 430 ans dans les versets. Que les tribus qui bossent, les cohortes d'Israël, c'est avec une analogie avec les tribus de Shamaïm, c'est un autre petit. ont été 430. D'autre part, effectivement, depuis la descente de Jacob pour rejoindre Joseph jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 210 ans. Et alors, la contradiction apparente de ces trois chiffres, ce n'est pas une contradiction. C'est-à-dire que, vous, il faudrait une demi-heure pour parler de ça en détail, mais vous pouvez étudier d'autre part. C'est-à-dire que, au moment où ça a été dit à Abraham, où la prophétie de Brit Ben Avetarim a été dite à Abraham, savoir tu sauras que ta descendance 400 ans, le moment de cette prophétie-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, ça fait 430 ans. Et puis, le moment où on commence les 400 ans jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est la naissance d'Isaac. Mais Isaac n'est pas sorti de l'Égypte. L'exil effectif a commencé 190 ans après, et ça fait 210 ans. 190 plus 210, c'est 400. Vous suivez ? C'est ce que dit la Gada en disant « Chacun de vos retours, Richer et Taquet ». C'est Dieu a compté le moment de la fin en situant le commencement. Et qu'est-ce comme valeur numérique 190 ? Et ça commence à la naissance d'Isaac.
Bon. Alors, c'était par rapport sur la promesse de l'exil et conséquemment de la terre.
Absolument. Donc, l'exil n'a commencé qu'avec l'histoire de Jacob. Jacob a espéré que son propre exil de 20 années, qui aurait dû être 21 chez Laban, s'épongerait tout ça. Et puis, tous ces 400 ans d'exil, ça aurait pu se faire en quelques semaines si on avait réussi notre tâche, Joseph en Égypte. Et vous remarquez, il y a toujours un Joseph en Égypte, quel que soit le régime ailleurs. De mon temps, c'était Léon Blum. Ensuite, il y a eu Mendès France. Et alors là, ça veut dire que cette expérience est estime et a duré le moins possible, alors on commencera le commencement des 400 ans plus haut. Vous comprenez ? Nous avons eu 2000 ans pour le dernier exil, 1900 années exactement. Que 1900 années exactement après la destruction du deuxième temple, c'était la reprise de Jérusalem au moment de la guerre des Siens. 1900. 10 fois 190. Multiplié par 10. Ça peut durer quelques semaines, tout ça. Vous connaissez le Midrash qui dit le jour de la destruction du temple, Mashiach est né. Comment il s'est caché parce qu'on n'a pas reconnu. Non, je suis mal exprimé, je pense que ça ressemble trop à des choses que. C'est pas ça. Il s'est caché parce qu'on n'a pas mérité. Mais il était là. À chaque Tisha B'Av, il y a un Mashiach possible qui naît. Il y en a un qui a une histoire épouvantable. C'était Shabbat, il est né un Tisha B'Av, je ne sais pas si vous savez. C'était pour tromper l'ennemi. Et alors, je referme la parenthèse parce que ça risque de nous mener trop loin. C'est pas la promesse de l'exil, c'est mal exprimé. C'est l'annonce de l'éventualité de l'exil comme oppression. Okay. Mais ça doit durer un temps de civilisation. 400 ans, c'est le chiffre symbolique d'un temps de civilisation. Mais si on réussit ce travail en 3 jours, et bien c'est en 3 jours, c'est fini. Quand un père dit à son fils, je t'envoie en mission au Congo, mais reviens dès que tu peux. Et tu as 400 ans pour ça. Alors le fils va dire, il m'a dit 400 ans. Il t'a dit, reviens dès que tu peux. Reviens dès que tu peux. Vous comprenez le problème. Est-ce que c'est clair? Je vais donner une fois l'image suivante. Que, comme si on était tombé malade, on nous a envoyé à l'hôpital. Et avec une valise de médicaments. Alors un jour, le médecin a dit, ça y est, tu es guéri, reviens. Non, j'ai encore des médicaments dans la valise. Reste pas là. C'est des mitzvot à accomplir. Jette ta valise de mitzvot et reviens chez toi. Et tu verras les mitzvot là-bas, c'est autre chose. Oui, je te dis. Pardon ? Oui. Oui. Alors là... Non, c'est la même terre avec des appellations différentes selon les niveaux. Et là, il faudrait faire un peu de Kabbalah. Mais ce que je veux vous signaler, en tout cas, avant d'y arriver, un point encore, c'est que la sortie d'Égypte a pu se faire à l'année où Moïse a dit vite, parce que si c'est pas maintenant, on est perdu. Vous vous rappelez, il a anticipé. On attendait 400 ans depuis la descente de Jacob. Au bout de 210 ans, au bout de 210 ans et 10, une sorte de préfiguration de Herschel, il y va dans le ghetto, là où il y avait son frère Aaron, mais imaginez, Moïse et Aaron, aussi différents que Herschel et le rabbin de la rue pavée. Parce que Moïse avait été élevé à l'université du Pharaon. Et il n'était pas journaliste à Vienne, enfin, oui, la même. Et imaginez Moïse arrivant à la rue pavée. Alors qu'est-ce qu'on lui aurait répondu ? On commence d'abord par Paris, après on verra. Alors c'est ce qu'on m'a dit à Monique, tu bégayes. Et là, en fait, je referme ma phrase. Qu'est-ce que tu dis juste avant? Oui. Et alors, il fallait donc commencer les 400 ans bien avant. On les commence à la naissance d'Isaac. Pour que ça coïncide quand même, et qu'on puisse sortir au bout des 400 ans. C'est ce thème que c'est par le mérite d'Isaac que la sortie de l'exil a pu se faire. Or, Isaac est le seul des trois patriarches qui n'a jamais quitté le frère. Et en plus, il y a un autre thème qui est relié, c'est le seul qui avait eu une seule femme. Et qui n'a pas changé de nom. Vous voyez ? Et tout ça, c'est important, on étudie dans la Kabbalah. Alors, cette terre-là a d'abord été occupée par la civilisation de Canaan. Et cette civilisation de Canaan a échoué. Alors, c'est la descendance d'Abraham par Israël qui va prendre le relais et remplacer la civilisation de Canaan. Son nom originel, c'est la terre de Canaan. Et cette terre de Canaan, c'est la terre donnée au Bnei Israël. Alors, elle s'appelle Eretz Israël. Elle ne s'appelle pas Israël, la terre, elle s'appelle Eretz Israël. Ça, nous en avons parlé un jour. C'est l'homme qui est nommé. Et la terre est nommée du nom de l'homme, et pas l'inverse. Mais ce qui est arrivé dans les civilisations qui se sont développées, dans ce que nous appelons la civilisation en général, alors qu'à l'origine, c'était vrai, je pense, pour toutes les identités humaines. C'est l'homme qui était nommé du nom, et non pas sa terre. Et je vous donne l'exemple de la France, qui n'est le plus familier. Oui, il y a d'abord les Francs. Ensuite, les Francs ont donné leur nom à la terre, la France. Et maintenant, il n'y a plus que des Français. Oui, c'est différent. Okay. Et au moment de la nomination, par exemple, De Gaulle dira, je me suis toujours fait une très grande idée, il a dit, de la France, il n'a pas dit des Français. D'ailleurs, Pompidou a fait le commentaire, des mots. Je crois que c'est lui qui a dit ça. Je pense que c'était un enseignement d'un de nos maîtres, que Régine a connu, peut-être vous aussi, je ne sais pas, Alfonso Pasilici, il faut nous les voir. C'est un grand juif italien, vraiment un noble italien, que nous avons connu au temps d'Orsay, avec 14. Et alors, c'est lui qui nous avait enseigné cela. Et je pense que toutes les identités humaines se sont d'abord connues comme ça. C'est l'homme, la dignité de la personne humaine qui est nommée, et non pas la cité. Lorsqu'on donne le nom de l'homme à la ville, c'est que la dignité de la personne humaine est mise en congé, ça devient un administré, un numéro d'ordre dans un registre municipal. Il y a un problème contemporain de la mise sous ordinateur de la carte d'identité impersonnelle. Et alors au moment où il fallait fonder l'État d'Israël, il y a eu une discussion à l'exécutif d'agent juif qui est devenu gouvernement provisoire. Quel nom donner? Il y a eu plusieurs hypothèses. Et puis finalement, on a donné le nom de Médina d'Israël. Je ne crois pas du tout qu'à l'agent juif, on ait tenu compte des principes de la tradition. C'est sorti du dedans, comme ça. De la même manière, quand il fallait un drapeau, on n'y avait pas pensé. Le secrétaire de Herzl avait son talit ce jour-là, et a dit, vous faut un drapeau, et il a pris son talit, il l'a mis sur le balcon. C'était bleu et blanc, alors c'est pourquoi c'est bleu. Mais c'est comme ça que ça devait être. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors on l'a appelé Médina d'Israël. Médina d'Israël, c'est parallèle à Eretz Israël. Moi, j'ai une petite interprétation personnelle. Comme c'est pas encore tout Eretz Israël, alors on l'appelle que Médina d'Israël, mais ça viendra. Bien, avant de ça, pour revenir. Tiens, ah oui. Moi, je voudrais d'ailleurs, au fond, accepter de vous parler de ça, parce que c'est un sujet brûlant d'actualité. Seulement, on va rester en panne avec Judas. Mais en tout cas, très très rapidement. Il y a eu trois lignées à partir de Noir. La lignée de Japheth a eu pour exposant de type Israël Yavam, la Grèce. La lignée de Ham a eu pour exposant de type Israël Canaan. Et puis la lignée de Shem, c'est Israël. Il y a, si vous voulez, trois vocations qui, ensemble, doivent faire réussir le projet de l'humanité. Yavan de la lignée de Japheth, Knaan de la lignée de Ham, et Israël de la lignée de Shem. Il y a collaboration entre Shem et Japheth, c'est-à-dire entre Israël et Yavan, de façon beaucoup plus proximale. Là, je vous donne comme référence les bénédictions de Noach à ses fils, y compris la malédiction à Knaan. C'est ce texte-là auquel je me réfère, hein. Et le verset dit, Yaftelotim le Yeset et Ishkon de Aoleshem. Tu as fait une belle chose à Japheth et il résidera dans les tentes de Shem. C'est-à-dire l'articulation Israël-Yavan qui serait de façon beaucoup plus intime et avec un problème d'affrontement intérieur. Alors qu'avec Knaan, il y a une extériorité. Que Knaan est très littéralement disqualifié, maudit par Noach déjà à l'origine, parce que Mme Amado a beaucoup étudié ce problème, je ne pourrais pas vous dire lequel de ces livres. Vous trouverez cette indication, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que ce projet de l'émergence ultime, définitive, réussie, épanouie, demande ce qu'on appelle en hébreu le shilouv des générations, le shilouv adorot, c'est-à-dire la solidarité des générations entre elles dans les engendrements. Or, c'est Knaan qui brise cela. Okay. Vous savez comment la Midrash l'indique, okay. Plus ou moins. Non? Il faudrait faire de nouveau du Freud par analogie. Bien. Le Midrash dit ceci, que Ham a voulu, comment dit-on en français, j'ai oublié, réparer, castrer, oui, son père. Ça veut dire supprimer sa capacité d'engendrement, se substituer à la génération précédente. Bien. Alors c'est que lorsque Noah s'est réveillé et a vu et compris ce que son fils Ham a voulu lui faire, alors il a maudit sa descendance, la descendance de son fils, Ham, à travers. C'est-à-dire qu'il y a là, si vous voulez, une indication typologique générale que cette tentative de Ham, dans la dimension de l'identité humaine dont c'était la vocation, les Hamitiques, est allée à l'échec ici. Et cependant, un temps de sursis a été donné de tout ce temps de la civilisation de Knaan, d'où est sorti, comme nous avons vu dans les cours précédents, hier et avant-hier, d'où sont sorties ces grandes civilisations de Babel, Mitzrayim. Vous vous rappelez de cela? Et un temps de sursis a été donné. Quand l'achèvement de ce temps de sursis se développe, et que le jugement de Dieu voit que ça va à l'échec inévitable, malgré les sursis, alors l'identité Israël se trouve à être préparée à partir d'Abraham, en préparation, envoyé au creuset de l'Égypte, en préparation comme un embryon dans sa matrice, et vous rappelez de tout cela. Et le verset dit à Abraham, Dor Rebini Yashuvohena, la quatrième génération reviendra dans le pays. Vous rappelez la fin de votre verset, les Dor Rebini, ces quatre générations de sursis ultime à Knaan, qui l'offre Shilem Avon Aemori, car la faute de l'Amoréen n'est pas arrivée à saturation. Si la faute de l'Araméen, l'Amoréen, les Knaan n'arrivent pas au terme, s'ils se reprennent, s'il y a Tshuva, si Knaan redevient sa vie, Israël prend le relais de Knaan dans Knaan. Mais si cette faute est irréversible, alors Knaan est disqualifié et remplacé par Israël qui prend aussi en charge la tâche de Ham. C'est pas trop vite? On ne refait pas l'histoire à l'envers. C'est-à-dire, on ne refait pas l'histoire à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, sinon sous forme d'hypothèse imaginale, qu'est-ce que ça aurait été une humanité où Knaan aurait réussi. Puisque nous avons l'histoire de l'humanité où Knaan a échoué et est remplacé par Israël de Shem. C'est-à-dire qu'Israël va avoir à prendre en charge, et la charge de Yafet, parce qu'avec Yavan, elle n'est pas authentique. Elle, c'est tout le problème du conflit qui va éclater historiquement au temps des Maccabées. En particulier, Tamar et Aréli. C'est tout le contexte là. C'est ce thème qu'il y a des tzadikim dans Knaan à l'échelle individuelle. Alors il entre dans la lignée messianique. Par les femmes, toujours. Toujours dans les engendrements, ça passe par les femmes, comme vous le savez, on est le fils de sa mère d'abord. Bien sûr, s'il n'y avait pas de père, il n'y aurait pas de fils, mais c'est une autre père. Bien, voilà, très grosso modo. C'est vraiment l'affaire de Knaan, qui a été nommé terre de Knaan, quand Knaan était là, chez Tsarif le Achmiya. Parce qu'il s'agit de subjuguer ce niveau de l'aide de nature qui s'appelle la terre. Et seulement, regardez bien les analogies. Cette terre-là était de l'héritage de Shem, qui a été conquise par Knaan. Et en particulier, ce peuple qui s'appelle les Philistines, qui ont donné, ce nom sera donné par la suite à la Palestine, par les Romains. Hein. Cette terre ne s'est jamais appelée la Palestine, comme vous savez. Ce n'est qu'à partir des Romains.